Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en direct, en vidéo, sur la chaîne YouTube de RFI. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure du Cameroun, où le RDPC, le parti au pouvoir, célèbre ces jours-ci ses 40 ans. 40 ans sur fond de campagne électorale, puisque dans 7 mois, vous le savez, se tiendra la présidentielle. Et c'est l'occasion, évidemment, pour le parti de mobiliser ses troupes. Des rassemblements ont été organisés à travers le pays en soutien au président Paul Biya. Les militants en profitent pour multiplier des appels à la candidature de leur leader. La campagne électorale a-t-elle déjà commencé au Cameroun? Vos réactions, vos témoignages, évidemment, au standard. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vos commentaires, comme tous les matins, sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. J'en lirai quelques-uns, évidemment, pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, nous allons donner la parole aux élèves du lycée FEDER d'Épinay-sur-Seine, en région parisienne. Ils sont à mes côtés ce matin, dans ce studio, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, dont RFI et tout le groupe France Média Monde est partenaire. Pour vous planter le décor, depuis lundi, il y a de nombreux ateliers qui sont organisés un peu partout en France, ainsi que dans les collèges et les lycées français dans le monde. Des ateliers pour permettre aux jeunes de comprendre comment fonctionne une rédaction, comment se construit l'information, comment vous, jeunes qui êtes autour de moi, vous pouvez développer un jugement critique sur le traitement de l'actualité. Donc bonjour aux 14 élèves du lycée FEDER. Soyez les bienvenus.
Bonjour.
Merci, on est ravis de vous accueillir ce matin dans ce studio. Ravis de vous ouvrir les portes de la rédaction. Juste un mot, vous avez une particularité et vous avez même, je dirais, la chance dans votre lycée d'avoir deux journaux réalisés par vous-même, deux journaux de lycéens. Il y a donc une concurrence entre le FEDER Actu et le FEDER Times. On va tout de suite vous donner la parole, je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de questions à nous poser. On va commencer avec toi, Mathéo, bonjour.
Bonjour.
Tu as quel âge, Mathéo ?
J'ai 17 ans.
17 ans, quelle est ta question ?
Alors, on a tendance à penser que les journalistes doivent être neutres, est-ce le cas ?
Alors, est-ce le cas ? Bonne question. Frédéric Misselin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe à la direction chargée de l'information Monde. Vous êtes la directrice de l'information à RFI. Les journalistes sont-ils neutres ?
Alors, c'est compliqué d'être neutre. Ce qui est certain, c'est qu'il faut donner la parole à tout le monde. Il faut dire les faits, il faut raconter ce que l'on constate en reportage et puis il faut vérifier les chiffres, les déclarations politiques. Alors, évidemment, chaque journaliste a son histoire, son éducation, son bagage culturel, son club de foot préféré. Les journalistes sont aussi des citoyens, donc c'est compliqué. Je préfère au terme de neutralité le terme d'objectivité, de rigueur, d'équilibre, de traitement équitable et juste. La règle est assez simple, hein. En fait, on ne doit pas prendre position pour tel ou tel, on ne doit pas faire de propagande. Et puis, attention quand même, la neutralité, ça ne veut pas dire considérer que tout est égal, que tout se vaut.
Voilà, objectivité, équilibre, rigueur. Mathéo, tu rédiges des articles dans l'un des deux journaux de ton lycée ?
FEDER Actu.
FEDER Actu, et tu rédiges des articles principalement liés...
Au sport,
au sport
surtout.
Et c'est difficile pour toi d'être neutre quand tu rédiges un article ?
Oui, un peu, parce que je ne sais pas vraiment quel mot employer. Et surtout que pour moi, le sujet, c'est important. Si je choisis, par exemple, une équipe de foot et je parle que sur elle, c'est que c'est un peu... j'aurais pas fait de... Comment dire le tour de tous les clubs. Mais j'essaie de faire un peu de tous les clubs, toutes les compétitions, quand
d'accord.
J'ai le temps, quand je le peux.
Donc, tu essayes d'être neutre.
Oui, c'est ça.
En rédigeant tes articles. Merci, Mathéo. Angie, bonjour.
Bonjour.
Tu as quel âge, Angie ?
17 ans aussi.
17 ans. Quelle est ta question ?
Alors, ma question, c'est... Récemment, dans le journal de notre lycée, on a publié un article qui a dû être enlevé, jugé diffamatoire. Alors, ma question, c'est... Les journalistes s'auto-censurent-ils par peur, crainte de représailles ? ou de procès. Mmh. Et quelles sont les limites de la liberté d'expression ?
Alors, une question pour vous, Frédéric Misselin.
Alors, clairement, il n'y a pas d'autocensure ou de crainte de représailles, mais simplement, on discute à chaque fois des risques et on s'appuie sur des textes, notamment la loi de 1880 qui régit le droit de la presse, qui garantit l'exercice de notre métier en toute liberté, protège nos sources, mais en même temps, la loi française nous oblige aussi à respecter, par exemple, la vie privée. On ne peut pas enregistrer quelqu'un qui n'aurait pas donné son consentement, donné son nom, son lieu d'habitation, enfin voilà. Donc on est quand même contraint par toutes ces règles. Et puis...
Et à RFI, nous avons une charte.
Oui, tout à fait.
Une charte de déontologie.
Oui, et qui, que nous consultons au quotidien, puisqu'il y a plusieurs chapitres. Elle parle de la couverture des actes de guerre, des attentats, des violences armées, du respect de la personne et de la dignité. Il faut par exemple aussi, lorsqu'on parle de justice, respecter la présomption d'innocence. Tant qu'une personne n'est pas jugée, elle n'est pas coupable.
Est-ce que vous pouvez nous donner, Frédéric Misselin, un cas précis, un cas particulier ?
Alors, je pense là à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, hein, c'était assez récent. Notre correspondante en Ukraine a été faire un reportage dans une prison où se trouvaient des prisonniers russes. Et donc, elle les a interviewés. Alors, est-ce qu'il faut diffuser ces sons ? On s'est posé la question. On a décidé que non, parce que ça contrevient à la Convention de Genève, qui est donc le texte base du droit international humanitaire sur les conflits armés. Et la Convention stipule que les prisonniers de guerre doivent être protégés, notamment de la curiosité publique. Par ailleurs, on ne sait pas si le prisonnier, sa parole est libre ou contrainte au moment où on l'interview. Il peut aussi y avoir des mesures de rétorsion quand la journaliste s'en va et qu'elle a fini son reportage. Donc, elle a raconté ce qu'elle a vu, elle a repris dans sa voix tout ce que le prisonnier racontait, mais on n'a pas diffusé le son, on n'a pas entendu la voix de ces prisonniers, on n'a pas révélé leur identité.
Angie, a-t-on répondu à ta question ?
Oui.
Tu es satisfaite ? Oui. Tant mieux, on est là pour ça. Angèle nous Bonjour. Rejoint. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Quel âge as-tu ?
J'ai 19 ans.
19 ans, très bien. Quelle est ta question ?
Un peu partout dans le monde, on a l'impression que la démocratie vacille. Je pense notamment aux États-Unis ou en Europe, voire en France.
Oui.
Et ma question est, est-ce que les fake news en sont responsables ?
Ah, la désinformation déstabilise-t-elle les démocraties ? C'est une excellente question. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Journaliste à la cellule InfoVérif de RFI qui démêle le vrai du faux sur les réseaux sociaux et qui nous permet à nous, journalistes et à nous, auditeurs également, de décrypter les fausses informations. Quel élément de réponse peut-on donner à Angèle ?
Alors en fait, c'est très difficile d'établir exactement dans quelle mesure l'exposition à la désinformation peut profiter à tel ou tel candidat. On a posé la question à des chercheurs, à des spécialistes. On ne sait pas dire avec précision si ça permet de faire gagner un point dans les suffrages pendant une élection, peut-être plus. Et surtout, l'impact direct des fake news sur les résultats varie d'une situation à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un candidat à l'autre. C'est difficilement mesurable, car en fait, c'est très lié, on l'imagine bien, au contexte.
En revanche, Olivier Four, les réseaux font partie de la vie politique et de la stratégie de conquête du pouvoir.
Oui, exactement. À plusieurs niveaux, en termes de communication politique, on le voit bien, vous le voyez, faire campagne sur les réseaux, aller sur les réseaux pour un homme politique, ça permet peut-être de dire des choses qu'on pourrait pas forcément dire sur des médias généralistes avec un style propre aux réseaux sociaux. Il y a une sorte de prime, sinon à la désinformation, en tout cas aux déclarations clivantes, outrancières, ça permet un peu de faire le show, comme on dit. Ensuite, il y a l'aspect manœuvre électorale. Là, c'est plus technique, car les réseaux permettent une analyse beaucoup plus fine de la mentalité des électeurs potentiels par rapport aux instituts de sondage. Ça permet aussi d'ajuster les prises de position politique en temps réel, en fonction des aspirations personnelles des utilisateurs. Les stratèges seront sur quoi faire réagir le public ou quel récit lui proposer pendant la campagne pour l'attirer dans le camp de telle ou telle formation.
Ouais, on sait que les jeunes suivent un certain nombre d'influenceurs. Est-ce que ça veut dire que ces influenceurs peuvent être des vecteurs de la désinformation et qu'aujourd'hui ils sont devenus finalement tout puissants ?
Alors les influenceurs, ce sont des relais. Certains existent réellement, d'autres, vous le savez, sont des bots, en fait, hein, des robots. Mais le discours qu'ils portent va provoquer une polarisation des points de vue. C'est bien là le point essentiel, car ils vont contribuer à enfermer les gens dans leur bulle. Les réseaux vont générer un conditionnement qui va avoir des conséquences sur les comportements. Je vous donne un exemple. Si dans votre entourage informationnel, les gens qui vous influencent, des gens vous persuadent que faire du vélo à Paris est un acte vital pour l'environnement. Vous pouvez être amené à considérer que ceux qui font pas du vélo sont de dangereux pollueurs et donc vos adversaires. Alors qu'en fait, ça serait peut-être beaucoup plus simple de les inviter à partager la pratique du vélo à Paris. Il est évident que cette polarisation du débat, on la retrouve dans la vie publique, on la retrouve dans la vie politique et elle pèse lourd durant les élections.
Oui, d'autant plus qu'il existe des mécanismes d'amplification.
Exactement. Quand on assiste à l'alliance d'Elon Musk avec Donald Trump aux États-Unis, le patron du réseau social X qui fait ouvertement campagne pour l'extrême droite en Europe, on voit bien qu'un système s'est mis en place pour quelque part hacker les cerveaux des électeurs, en prendre un peu le contrôle. Un contenu viral, ça touche des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes en peu de temps. Et par-dessus le marché, certaines plateformes comme TikTok ou X sont soupçonnées d'amplifier artificiellement certaines infox ou les contenus clivants. Ou alors parfois, elles ferment les yeux sur l'activité de faux comptes qui sont animés par des puissances étrangères.
Angèle, est-ce qu'on a répondu à ta question ?
Oui.
Est-ce que tu as tout compris ?
Oui.
Très bien. Non, il ne faut pas avoir peur de dire non. Il est 9h21. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les élèves du lycée FEDER sont avec nous ce matin. En première partie, ils posent leurs questions à la rédaction de RFI à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Rhoda nous rejoint. Bonjour Rhoda.
Bonjour.
Quel âge as-tu ?
J'ai 17 ans.
17 ans. Quelle est ta question ?
Alors l'année dernière, on a fait une enquête dans notre lycée qui a montré que les lycéens s'informaient principalement par les réseaux sociaux. Du coup, ma question c'est comment est-ce que les médias s'adaptent aux pratiques informationnelles des jeunes ?
Et toi, tu t'informes essentiellement via les réseaux sociaux ?
Oui, moi aussi.
C'est devenu ta principale source d'information ?
Un peu, oui.
Un peu, oui.
Je regarde un peu sur YouTube aussi les informations.
Oui.
Je préfère. Bah,
ça reste un réseau social quand même, YouTube. Ouais. Bonjour Christophe Champin.
Bonjour, bonjour.
Merci
à
de
tous.
Nous rejoindre. Vous êtes adjoint au directeur de RFI chargé du numérique. Comment la radio s'adapte-t-elle ?
Alors, déjà, d'une manière générale, tous les médias essaient de s'adapter à ce développement des réseaux sociaux et aussi à parler à des audiences plus jeunes, puisqu'aujourd'hui, si on prend la radio, par exemple, la nôtre, les gens qui nous écoutent sont plutôt âgés, enfin plutôt âgés par rapport à vous. Et donc, si on veut s'adresser à une audience plus jeune, si on veut que les gens continuent à nous écouter ou à nous suivre d'une autre façon, il faut qu'on soit présent sur ces réseaux, pas seulement pour des raisons d'audience, parce qu'il faut rappeler qu'on est une radio de service public, donc au service du public. Donc ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, mais pour essayer d'informer le mieux possible nos auditeurs ou nos internautes. Et donc nous, RFI, on essaie d'être présents sur ces réseaux. Alors pour ce qui est du français, historiquement, on était présents sur Facebook à l'époque où c'était évidemment le réseau le plus suivi par les jeunes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, on reste toujours sur Facebook parce que sur le plan international, ça reste un réseau qui marche très
avec
bien.
Avec tout de même 6 millions de followers.
Voilà, et pour ce qui est de RFI, en français en tout cas, c'est 6 millions de followers. On a été historiquement aussi présent sur Twitter, devenu X. Et puis évidemment, maintenant, si on veut s'adresser à des jeunes, c'est pas sur ces réseaux qu'on peut exclusivement être présent. Donc, on est présent également sur Instagram, pour ce qui est du français. On y publie des choses très diverses. Ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être aussi des diaporamas avec du texte. L'idée, c'est par exemple de pouvoir raconter un article en images que vous n'allez peut-être pas lire sur le site, mais qu'au moins vous pourrez lire sur ce compte Instagram. Donc ça, c'est très important, parce que l'idée, c'est que même si on est sur des réseaux sociaux, on doit travailler avec la même rigueur et le même objectif que ce que disait tout à l'heure Frédéric Misselin ou ce que disait Olivier Four, c'est-à-dire faire de l'information avec sérieux, avec équilibre, mais aussi, là où c'est très important d'être présent sur ces réseaux, c'est que c'est par là aussi que passent énormément de fake news. On en parlait tout à l'heure. Et donc, nous, notre objectif aussi, c'est de faire de l'audience avec des contenus vertueux, sérieux, parce que c'est la meilleure manière de lutter contre les fake news. C'est en fait de vous dire, bah, écoutez, plutôt que d'aller sur des comptes que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas d'où ça vient et d'où vient une information, bon, vous savez qu'il y a un média sérieux et qui vous propose des contenus qui correspondent à vos codes, mais qui sont des informations vérifiées. On est par ailleurs présent également sur TikTok. Là, pour le coup, c'est pour ce qui est du français, c'est visé sur notre chaîne RFI Musique, puisqu'on on a un site consacré à la musique. Et on ne parle pas que de musique de vieux, on y parle notamment de Tiakola. Hier, on a publié une vidéo sur 5 choses à savoir sur Tiakola. Et donc ça, c'est aussi pour pouvoir être présent et atteindre des audiences plus jeunes.
Voilà, on est évidemment pour le français, mais pour toutes les autres langues de RFI, en khmer, en espagnol, en haoussa, mandin, kanse, qui soit lié, on est également sur les réseaux sociaux. Merci pour ta question pertinente.
Merci à vous.
Rhoda, Inès, bonjour.
Bonjour.
On t'écoute, il nous reste 5 minutes, on va essayer d'accélérer un tout petit peu.
Alors, aujourd'hui, les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux, nous avons l'impression que les médias privilégient les infos et les formulations qui font le buzz. Dans ce contexte, comment produire et mettre en avant une information de qualité ?
Frédéric Misselin.
Oui, alors, je vais vous donner un exemple qui date un peu, mais qui me sert un petit peu de boussole à moi et à l'ensemble de la rédaction. Ça date de 2013. Il est très significatif, cet exemple. Il y a une famille française de 7 personnes qui est enlevée dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste Boko Haram. Ils sont retenus pendant 2 mois au Nigeria. Il y a les parents, les enfants. Et un matin, à l'Assemblée nationale, un ministre annonce la libération de ces 7 otages, mais c'est une annonce qui n'est pas vraiment officielle. Tous les médias envoient une notification sur leur smartphone. Urgent, les otages sont libérés, tout le monde s'agite, se réjouit, tout le monde sauf nous, parce qu'en fait entre-temps on a appelé notre correspondant au Cameroun qui nous dit, ben moi j'ai appelé tous les officiels locaux sur place et je n'ai pas la confirmation, donc on ne peut pas donner cette information, donc on a retenu l'information. Et c'est assez difficile parce que quand l'ensemble des médias la donne et que nous, on est à contre-courant total, c'est très compliqué. Mais on a assumé ça et on a eu raison puisque quelques heures plus tard, le cafouillage a été reconnu par les autorités françaises. Donc vraiment, ces choix d'être sur une information vérifiée, c'est la base.
Voilà, c'est important. Tu vérifies tes informations avant de les publier dans le journal du lycée ?
Bien sûr.
Bien sûr, voilà, c'est une évidence pour toi. Très bien, merci Inès. Daria, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on t'écoute.
Alors moi j'ai une question. RFI est une radio écoutée principalement en Afrique. Quel est l'objectif de l'existence de cette radio ? Dans un contexte de rejet de l'influence française en Afrique, celle-ci est-elle contestée ? A-t-elle donc une influence politique ou diplomatique ?
Alors, Olivier Four, RFI est une radio de...
Service public, on l'a dit tout à l'heure.
C'est important de le rappeler.
Avec Christophe et avec Frédéric, c'est une chaîne française d'actualité internationale. L'objectif, c'est de fournir une information libre, indépendante, pluraliste et bien sûr vérifiée. Bon, ça, c'est ce qu'on peut lire dans la charte. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on propose, des programmes à l'étranger et que les pays dans lesquels RFI est diffusé ont autorisé évidemment la diffusion puisque par exemple les émetteurs sont installés dans ces pays-là et puis on a des envoyés spéciaux, des journalistes qui travaillent avec des autorisations en bonne et due forme dans ces pays. Alors moi je travaille au sein de la cellule Info Vérif de RFI en qualité de fact-checker. Donc je peux vous dire que les messages et les récits hostiles à RFI, vous parlez de contestation, tout comme d'ailleurs à d'autres médias français et occidentaux, je les vois passer. Et j'en vois passer beaucoup. Ceci étant, on s'aperçoit que notre radio est toujours suivie par un très large public, partout en Afrique francophone, y compris sur Internet dans les pays où nos émetteurs FM ont été coupés. Et nous pouvons d'ailleurs remercier ce matin encore nos auditeurs de nous rester fidèles. Et à ce jour, RFI reste la radio internationale la plus écoutée et se maintient dans le top 6 des radios les plus écoutées dans les capitales francophones chaque semaine. Pourquoi les gens écoutent encore RFI ? Eh bien, on en a parlé simplement parce que c'est une radio fiable, inclusive, qui donne la parole à tout le monde. Et c'est une radio populaire, on vient de le dire, dans une très large partie de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous donner juste un exemple peut-être pour terminer. Un jour, j'étais sur un marché au Gabon et j'écoutais l'émission de Juan Gomez. J'ai traversé 200 mètres d'allée de ce marché. Et tous les marchands avaient leur poste radio. Et du début du marché jusqu'à la fin du marché, j'ai pu suivre l'émission sans discontinuer. Ça veut dire qu'en fait, sans coupure. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde écoutait l'émission de Juan Gomez ce jour-là.
Bah, je remercie les auditeurs ce jour-là qui nous écoutaient sur le marché. Merci infiniment. Il nous reste une petite minute. Je suis désolé, mais vraiment désolé pour Yaren et Alexandre. On est obligé de rendre l'antenne. On a des impératifs à la radio. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure on commence et on sait à quelle heure on termine. Et je suis obligé de rendre l'antenne dans tout juste 45 secondes pour la dernière édition d'Afrique Matin. Mais vous savez quoi ? Vous restez en studio, vous assistez à la deuxième partie de l'émission et on prendra le temps, évidemment, hors antenne, de continuer à discuter et à répondre à toutes vos questions. Merci infiniment à Frédéric Misselin, Olivier Four et Christophe Champin d'être venus répondre aux questions des lycéens
de FEDER à Épinay-sur-Seine. RFI en continu évidemment sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, et on vous attend au standard pour notre débat dans 10 minutes consacré à la présidentielle au Cameroun, présidentielle qui anime déjà le débat politique, et on le voit bien d'ailleurs, le parti au pouvoir profite des 40 ans, de ses 40 ans pour déjà mobiliser ses partisans et faire en sorte que le président Paul Biya soit candidat. On en parle dans 10 minutes.